Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans, c'est Clap, Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans Manceaux, et on retrouve entre les micros Pierre Barry,
bonjour
Pierre et Michel Lafon. Cette semaine, il y a beaucoup de films, je ne sais pas si on aura le temps de parler de tous, mais enfin bon, on parlera de Jurassic World, Renaissance, I Love Peru, la trilogie d'Oslo, Amour, Superman, Des Feux dans la Plaine, Marius et les Gardiens de la Cité Phocéenne, Over, Le Rire et le Couteau, Valensole 1965, Buffalo Kids, si on a le temps, mais c'est pas certain. Pour ce qui est de la programmation musicale, eh bien, deux titres extraits de Superman et deux de Over. Et on commence par un titre que l'on entend sur le générique de fin de Superman. Ça s'appelle Punk Rocker. C'est un groupe qui s'appelle Teddy Bears avec Iggy Pop qui chante. C'est sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. Ça s'appelle Punk Rocker. Le groupe, c'est Teddy Bears, le chanteur, c'est Iggy Pop, et la chanson, c'est Punk Rocker. C'est la chanson qu'on entend sur le générique de fin du film Superman. Notre semaine cinématographique, on la commence avec Jurassic World Renaissance. Certes, c'est sorti vendredi, mais on n'avait pas eu le temps de le chroniquer, puisque ça n'est sorti qu'après midi. Jurassic World, c'est un film de Gareth Edwards, réalisateur-scénariste britannique né en 75. Il a commencé par le court-métrage, et puis 2010, un premier long, Monsters, et puis en 2014, Godzilla, avec Aaron Taylor-Johnson, 2016 Rogue One, A Star Wars Story, et 2023 Creator avec John David Washington. Le film, bien entendu, est distribué au Colisée, au Méga CGR, au Pathé Quinconce. Il doit bien y avoir de la VO quelque part au Colisée et au Pathé Quinconce, mais Pierre va vous en parler tout de suite de ce film.
Durée 2h13, le titre en anglais c'est exactement le même. Le synopsis. 5 ans après Jurassic World, le monde d'après, l'environnement de la planète s'est révélé hostile pour la plupart des dinosaures. Ceux qui subsistent vivent dans des zones équatoriales isolées, aux conditions proches de celles de leur aire d'origine. Parmi ces créatures terrifiantes, trois spécimens renferment peut-être la clé d'un remède capable de changer le destin de l'humanité. La revue de presse, Le Parisien avec Renaud Baronian, suspense hyper anxiogène, scène marine démentielle durant la première heure, fabuleux et ahurissant effets spéciaux, Edwards nous fait la totale. 20 minutes avec Caroline Vier. On va voir Jurassic World et Jurassic Park pour les dinosaures, et quand on trouve un réalisateur qui les aime, qui sait les filmer et les relooker, on est content car la saga prend un coup de jeune bienvenu. Le Figaro avec Olivier Delcroix. Avec son zeste d'humour et son brin de nostalgie, ce septième film se révèle un grand et beau divertissement estival. Peut-être celui dont la franchise avait besoin pour sortir de l'ornière. Le Journal du Dimanche. Un récit de survie merveilleux et impitoyable. Écran large avec Deborah Lechner. Jurassic World Renaissance n'est pas spécialement honteux, ni même le pire film de la saga. Il n'empêche que la déception est immense, aussi bien pour la franchise, qui promettait de se remettre sur les bons rails, que Gareth Edwards, en qui beaucoup ont placé leur espoir après Godzilla ou The Creator. L'Obs avec Guillaume Loison. Le tout dans une machine un peu longuette, mais correctement huilée, rehaussée de quelques fulgurances, une larme de second degré et un soupçon de charme, la drague discrète mais constante entre un chercheur et une irrésistible baroudeuse, c'est Scarlett, forcément. Les Échos, avec Adrien Gombeau, avec Gareth Edwards à la réalisation et Scarlett Johansson en tête d'affiche, Jurassic World Renaissance tient ses promesses spectaculaires sans parvenir à bousculer les vieilles recettes du blockbuster. Première avec Thomas Borez, renouant avec l'esprit originel d'une saga qui s'était vue plus grosse que le bœuf, cette Renaissance signée Gareth Edwards est bien partie pour être le blockbuster le plus cool de l'été. Et il y en a qui n'ont pas aimé. Arnaud Allais pour Les Incorruptibles. Programmation à souhait, sans souffle aucun, Renaissance soulève inévitablement la question du réinvestissement des mythes, une Renaissance en trompe-l'œil pour un clonage fossilisé. Le Point avec Philippe Gedge. Ni Scarlett Johansson, ni le réalisateur pourtant doué Gareth Edwards ne peuvent empêcher cette ressucée rasoir d'abîmer encore un peu plus une franchise fossilisée. Et enfin, Libération avec Marius Chapuis, c'est un naufrage de bout en bout.
Eh bien, donc, Jurassic World Renaissance est au Colisée avec de la VO, une séance chaque jour en général, au Méga CGR et au Pathé Quinconce. On peut penser que dans ces cinémas-là, il y a de la version 3D, Ice, 4DX, etc., etc. L'enjeu du film est simple, mais d'ailleurs, on s'en fiche très vite. Il s'agit pour une entreprise pharmaceutique de prélever l'ADN de certains dinosaures pour en faire un médicament pour les maladies cardiovasculaires. Alors pour cela, cette entreprise envoie un de ses cadres supérieurs, un professeur, un scientifique quoi, et une équipe de mercenaires sur une île où vivent les derniers dinosaures. En effet, on apprend que ceux-ci sont en voie désormais de disparition à cause, entre autres, des changements climatiques. Voilà, bon, alors, ça c'est le contexte. Chemin faisant, cette équipe croise la route d'une famille partie faire la traversée de l'Atlantique et dont le bateau a été coulé par un dino marin. Et tout ce petit monde se retrouve naufragé sur la fameuse île où jadis un laboratoire se livrait à des expériences sur les bestioles. C'est le début d'un survival classique. Voilà, un survival, c'est-à-dire un film de survie. Survival classique en milieu hostile, avec un montage alterné montrant les deux groupes face aux difficultés. Donc le groupe des naufragés, de la famille naufragée, et puis l'autre groupe mercenaires, scientifiques et cadres sup. Donc et chacun, bien entendu, fait face respectivement à un certain nombre de difficultés pour se retrouver dans la dernière demi-heure du film. Voilà, donc c'est construit de cette façon-là. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le film? Eh bien, c'est rien d'original, rien de vraiment original. Le film fonctionne surtout, comme toujours avec la saga, hein, sur les effets spéciaux. Et il faut reconnaître qu'ils sont spectaculaires, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, d'où des séquences d'affrontement et d'affrontements entre dinosaures et de suspense qui sont réussis, ça il faut reconnaître, ils sont réussis. En revanche, pour la caractérisation des nombreux personnages, on repassera, hein, le film c'est une litanie de figures déjà vues et revues, dont l'enjeu est finalement de savoir qui va parmi elles se faire bouffer ou pas. On a bien une petite idée de ceux qui vont se faire bouffer. Hein. Par exemple, il est évident que la petite fille va en réchapper. On ne peut pas faire bouffer une petite fille dans un film, ce n'est pas possible. On peut penser que la mercenaire au grand cœur, Scarlett Johansson, va en réchapper. C'est quand même l'héroïne du film. Par contre, le représentant du Big Pharma, là, dès le départ, on sait que ça va mal se terminer pour lui. Il est cupide, il est lâche. On voit mal comment il pourrait en réchapper. Bon, voilà, bref. C'est un vrai spectacle. Mais finalement... routinier dans son déroulé, la franchise, je dirais, ronronne, ne réserve plus aucune surprise, mais au moins, les effets spéciaux restent au top, et la tension induite par la présence des dinosaures permet des séquences au suspense efficaces, des sensations fortes garanties, avec un petit soupçon d'humour, oui, quand même, il y a un petit soupçon d'humour, donc on ne s'ennuie pas, du moins si on est un fan de cinéma d'aventure, hein, et on ne s'ennuie pas, mais ça n'innove pas vraiment. Voilà, donc je peux le recommander, mais ce n'est pas indispensable non plus à aller voir. Voilà, ça s'appelle Jurassic World Renaissance, c'est au Colisée, Pathé Quinconce et Méga CGR. I Love Pérou, par contre, c'est uniquement au cinéaste et au Pathé Quinconce. Au cinéaste, le film a droit à 2 séances par jour, au Pathé Quinconce, toutes les séances que vous voulez, que vous pouvez imaginer. C'est un film co-réalisé par Raphaël Quenard et Hugo David, qui jouent d'ailleurs leur propre rôle dans le film. Pour les deux, c'est leur premier long-métrage. Apparemment, ils avaient réalisé un court-métrage. Raphaël Quenard, il est surtout connu comme acteur, bien entendu. On l'a vu dans L'Amour Ouf, dans Le Deuxième Acte, dans Yannick, dans Chien de la Casse, etc., etc. C'est une valeur montante du cinéma français. Pierre vous parle de I Love Pérou.
Durée 1h09. Avec Raphaël Quenard, Hugo David et Anaïs de Rosam. Le synopsis, lancé dans une course effrénée vers le succès, un comédien biscornu abandonne ses plus fidèles alliés. Seul face à lui-même, une vision troublante le percute, direction le Pérou pour une aventure spirituelle. La revue de presse, 20 minutes avec Caroline Vier, un documenteur réjouissant. Le Parisien avec Catherine Ball, I Love Pérou va très loin dans l'humour noir et la provocation. Imprévisible, il nous déroute et nous régale de sa verve tourbillonnante. Les Échos avec Olivier De Bruyne. Le comédien inclassable passe derrière la caméra. En compagnie de son acolyte Hugo David, il signe un film à son image, délirant et provocateur. Télérama avec Guillemette Odissino. Autofiction, documentaire, délire sur le narcissisme, la vanité et la mélancolie des acteurs dans leur quête de célébrité, un véritable ovni. Les Cahiers du cinéma avec Marco Suzal. L'humour potache domine dans ce canular où l'autodérision est une forme suprême de narcissisme tant qu'Enard persiste à entériner l'idée qu'il serait dans la vie exactement comme dans les films. Première avec Thierry Chaise. Un moyen métrage aurait été une forme plus appropriée. Et je termine par ceux qui n'ont pas aimé. Le journal du dimanche d'abord. Ce très court documentaire humoristique dans la veine de I'm Still Here, sorti en 2010, joue évidemment sur la part supposée de vrai et de faux à propos d'un artiste en devenir, au caractère certes hors norme, mais le malheureusement plutôt vulgaire, pas franchement drôle et doté d'une très haute opinion de lui-même, tout le monde n'est pas Joachim Phoenix. Le Monde, tout est ici trop calculé et plombé par une surconscience du geste qui barre la route à ce comique idiot que le film prétend atteindre. Et enfin, Libération avec Didier Perron. L'ego trip fanfaron de l'acteur romancier sans filtre, sorte d'introspection sur son explosion médiatique, est consternant, voire glauque.
Eh bien, I Love Pérou, c'est au cinéaste et au Pathé Quinconce. C'est donc un vrai faux documentaire, ce qu'on appelle une autofiction, consacrée à l'acteur en vogue du moment, Raphaël Quenard. Et c'est réalisé par son pote réalisateur, donc Hugo David. Tous deux, on vous l'explique dans le film, se sont rencontrés sur le tournage du film Chien de la Casse, où Hugo était réalisateur du making-of. Et depuis, ben, les deux ne se sont plus quittés. Le second, Hugo David, filmant en permanence le premier, Raphaël Quenard, dans tous les moments de sa vie et sur ses nombreux tournages. Alors, il y a une première partie du film qui est assez savoureuse, où Quenard fait preuve de beaucoup d'autodérision, par exemple sur son radinisme, alors vrai ou supposé, bon voilà, on ne sait pas, et où on le voit rencontrer des acteurs partenaires de ses films et auprès desquels il essaie de se placer. Alors, cette première partie, c'est la moitié du film, à peu près, c'est plutôt drôle, il faut reconnaître, bon, beaucoup d'autodérision. La deuxième partie, elle l'est beaucoup moins, deuxième partie où Quenard, après sa séparation avec sa compagne, part au Pérou rencontrer un chaman pour lui parler d'une vision, d'un rêve où il s'est vu en condor. Voilà, l'oiseau, le condor. Hein. Là, c'est beaucoup moins drôle, c'est plus absurde, c'est parfois même vulgaire. Alors là, franchement, ça, c'est Quenard qui nous parle de sa bite, ça, c'est vraiment, ça n'a aucun intérêt. C'est tellement facile de faire rire soi-disant avec ça. Bon, Quenard y apparaît comme un sale gosse, provocateur. Alors, mensonge ou réalité, est-il comme ça ou pas, j'en sais rien. Et se permettant bien des choses pas très fut-fut, limite même détestables. Alors, qui est le vrai Raphaël Quenard ? C'est toute l'ambiguïté du film, où il n'est pas toujours possible de démêler réalité et fiction. C'est un film à l'humour potache, comme on dit, qui repose essentiellement sur la personnalité de l'acteur, sur ses dons d'improvisation, son naturel. On peut aussi voir une réflexion sur les conséquences d'une célébrité soudaine, celle que vient de connaître ou connaît Raphaël Quenard. Donc, vous l'avez compris, un avis très mitigé sur le film, alors que j'ai porté sans a priori, plutôt même un a priori favorable. I Love Pérou, c'est au cinéaste, c'est au Pâté Quinconce. Toujours au cinéaste, le deuxième volet de la trilogie d'Oslo, Amour. Alors, c'est toujours réalisé par Dag Johan Aagerud, réalisateur scénariste norvégien. La semaine dernière, on avait vu, Pierre nous avait parlé du premier segment de la trilogie, s'appelait Rêve, ça s'appelle oui. Amour, ça dure 1h59. Je ne vais pas vous donner le titre original parce que le norvégien, ce n'est pas trop mon truc. Ça dure 1h59, je viens de le dire, sur un ferry qui les ramène à Oslo. Marianne, médecin, retrouve Thor, infirmier dans l'hôpital où elle exerce. Il lui raconte qu'il passe souvent ses nuits à bord, à la recherche d'aventures sans lendemain, avec des hommes croisés sur des sites de rencontres. Ses propos résonnent en Marianne, qui revient d'un blind date organisé par sa meilleure amie et s'interroge sur le sens d'une vie amoureuse sans engagement. Mais ce soir-là, Thor succombe au charme de Bjorn, qui lui résiste et lui échappe. Jérémy Cousteau dans Télérama, bercé par une partition de jazz atmosphérique nimbée d'une lumière de fin du jour, la capitale norvégienne devient, le temps du film, une utopie où tout devient possible. Embarquons avant que la ville ne disparaisse dans les brumes. Ignov dans Le Figaro parle d'une chronique délicate et élégante. Le monde, Amour, va dans le sens d'un lâcher-prise, comme une incitation à être honnête avec ses désirs, à prendre à bras le corps l'existence dans toute sa complexité, à accueillir les choses qui nous arrivent sans trop chercher à les intellectualiser, pour s'autoriser un peu de joie et de bonheur dans le désordre des relations humaines. La revue positive, Marthe Status, les qualités d'écriture, l'élégance de la mise en scène, la qualité de l'interprétation font tout l'intérêt d'un ensemble de films très singuliers. C'est au pluriel, c'est une critique pour l'ensemble des trois films, bien entendu. Yannick Voly, dans Paris Match, cela pourrait fleurer bon, l'imagerie publicitaire, c'est la science du dialogue et de la mise en situation du cinéaste norvégien, dont la caméra stéthoscope écoute les battements du cœur de deux célibataires trentenaires. Elle est indécise quant à la place à donner à un amour naissant, lui convaincu qu'il faut prendre l'être cher dans ses bras. Le verbe indécisé vient d'être inventé par Yannick Voly. Thierry Chaise, dans Première, des trois films de cette trilogie, Oslo se révèle le moins convaincant à cause de sa thématique au fond assez banale, mais surtout parce qu'il est le seul à donner le sentiment de tirer à la ligne, de faire bégayer des situations, en dépit de la qualité de son interprétation. Privilégiez plutôt Rêve ou Désir, c'est certainement le conseil que va vous donner Pierre.
Je suis d'accord avec la dernière critique, oui. Alors, deuxième volet, donc, Amour au singulier. Je le précise parce que sur le programme des cinéastes, c'est au pluriel. Une petite erreur, donc, mais sur l'affiche, c'est bien au singulier. Tout de suite, je vais vous faire un résumé de ce que j'ai ressenti. J'espère que je vais vous faire rire. Blablabla.
D'accord.
Eh oui, ça parle beaucoup, tout le temps, à tel point que j'ai même failli quitter la salle, ce qui est plutôt rare pour moi.
Ouais.
Mais comme on dit, l'espoir fait vivre, donc je me suis dit que ça allait peut-être changer. Eh bien non. Alors, 2 heures de dialogue, c'est long, surtout quand il faut lire tous les sous-titres,
parce que
ça n'arrête pas. En plus, j'ai trouvé que la part donnée aux différents protagonistes était très inégale, entre hommes que l'on voit beaucoup, beaucoup, et femmes beaucoup moins. Alors, reste le cadre. Beaucoup de scènes se déroulent dans un ferry, on l'a vu dans le synopsis. C'est dans la baie d'Oslo. En conclusion, donc, c'est vraiment pas top pour moi. Le premier volet était nettement au-dessus. Alors, reste à voir donc le dernier volet intitulé « Désir » la semaine prochaine.
Exactement. C'est au cinéaste qui vous est présenté ce film « Des feux dans la plaine » avec 2 séances par jour. Marius et les gardiens de la cité phocéenne, c'est au cinéma. Au cinéma. Pathé Quinconce, Méga Cégère et Colisée, mais on en parlera tout à l'heure parce qu'on va faire une petite pause musicale avec Five Years Time du groupe Noah and the Whale.
Oh,
the Whale, c'est la baleine, c'est ça, hein? Whale. W-H-A-L-E.
W-H, oui, c'est une baleine.
Et donc, c'est un titre que l'on entend dans le film Superman, dont on parlera juste après. Donc, sur Radio Alpa, le titre c'est Five Years Time et c'est donc Noah and the Wild sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Ça s'appelle Noah and the Wild, ça c'est le groupe, et Five Years Time, c'est le titre de la chanson, et on entend ce titre dans le film Superman, justement. C'est l'occasion de parler de ce Superman, réalisé par James Gunn, réalisateur, scénariste, producteur américain. On le connaît, James Gunn, peut-être pas pour son premier long-métrage, qui s'appelait Troméo and Juliette, et puis peut-être pas non plus pour, en 2006, Horribilis, avec Nathan Fillion, mais on le connaît surtout pour les Gardiens de la Galaxie, le premier volet et le deuxième volet, le premier en 2014, le deuxième en 2017, avec notamment Chris Pratt, Zoé Saldana, Dave Bautista. Et puis en 2021, The Suicide Squad avec Margot Robbie, Idris Elba et John Cena. Il est aussi réalisateur de la série TV Peacemaker. Son film Superman est proposé au Pâté Quinconce, au Méga CGR, au Colisée. Au Colisée et au Pâté Quinconce, il y a des séances en version originale. En général, il y en a une par jour. Et puis, au Méga CGR et au Pâté Quinconce, eh bien, il y a la salle Ice au Méga CGR et la salle 4DX au Pâté pour avoir des sensations. Superman, c'est Pierre qui en parle le mieux.
Alors, durée 2 heures et 9 minutes avec David Corenswet, Rachel Brosnahan et Nathan Fillion. Le synopsis: Superman se retrouve impliqué dans des conflits aux quatre coins de la planète et ses interventions en faveur de l'humanité commencent à susciter le doute. Percevant sa vulnérabilité, l'ex-Luthor, milliardaire de la tech et manipulateur de génie, en profite pour tenter de se débarrasser définitivement de Superman. Lois Lane, l'intrépide journaliste du Daily Planet, pourra-t-elle, avec le soutien des autres méta-humains de Metropolis et le fidèle compagnon à quatre pattes de Superman, empêcher Luthor de mener à bien son redoutable plan? La revue de presse. Écran large avec Mathieu Jaborska. James Gunn tente de rendre à Superman, et surtout à son univers, son statut d'icône de la pop culture dans tout ce qu'elle a de plus décomplexé, spectaculaire et belle. La sincérité de sa démarche l'emporte largement sur les compromis qu'il a forcément dû faire. Le Figaro. Sans jamais chercher à singer Christopher Reeve, l'acteur David Corenswet incarne Superman actuel, à la fois punk rock et romantique, conscient de sa surpuissance, mais sincère dans sa démarche héroïque. Le Journal du Dimanche. Paris réussi pour ce tout premier volet du nouveau DC Universe, appelé à se développer sous la houlette de James Gunn, qui insuffle sa personnalité savoureusement décalée à l'histoire. Les Échos avec Adrien Gombeau. Ce Superman va certainement décontenancer les fans purs et durs du Seigneur des comics. Les autres sentiront passer un vent de fraîcheur irrévérencieux au royaume des blockbusters. Libération avec Olivier Lam. C'est fugace, mais drôlement agréable. Si tous les films de super-héros pouvaient inspirer, expirer comme ça. Les Inrecuptibles avec Arnaud Allais. La tentative de satire politique en miroir direct de notre époque tourne vite à la caricature. Là où Superman est autrement plus passionnant, c'est dans cette innocence retrouvée, dans son geste poétique, pour préserver l'essence d'un héros qui serait passé de mode. Ouest France avec Thierry Chaise. Gunn fait les choses sérieusement, sans se prendre au sérieux. Les amateurs du Superman de Donner y trouveront sans doute à redire, mais voilà, la machine est relancée. Le Parisien avec Renaud Baronian. Certes, on reconnaît la patte de James Gunn, désormais co-PDG des studios DC, dans quelques rares scènes de baston réussies, mais pour le reste, que de déconvenues, parmi lesquelles un Lex Luthor surjoué jusqu'au grotesque par Nicolas Hoult. Le retour complètement raté de Crypto, le chien de Superman, qui prend ici les traits d'un toutou hideusement numérique. Le Point avec Philippe Gage. Deux éléments cependant à saluer dans ce millimélo bruyant et gras. Tout d'abord le choix de David Corenswet dans le drôle titre. Pour le reste, et malgré ses références vintage à la BD, James Gunn a bel et bien composé un Superman pour son époque. Et enfin Téléraman qui n'a pas aimé. Le super-vilain ne cesse de répéter que le cerveau peut être plus fort que les muscles. Ce film pâteau, qui a constamment la cape entre deux chaises, lui donne vraiment tort.
Superman au Colisée, au Méga CGR et au Pâté Quinconce, c'est un nouveau redémarrage de la franchise après 10 ans d'absence. Et c'est le énième combat donc, entre Superman et son ennemi de toujours, Lex Luthor, incarné par Nicolas Hoult, qui est excellent. Moi, j'ai trouvé un méchant mégalo, ben, comme il se doit. Hein. C'est d'ailleurs pour moi le meilleur atout du film, tant il en fait des tonnes. Alors évidemment, si on n'aime pas les gens qui en font des tonnes, ça, on va être d'accord. Ici, eh ben, on nous évite tous les préliminaires de la saga Superman, donc son enfance sur la planète Krypton, l'arrivée sur Terre, l'adoption par un couple de fermiers du Middle West, l'arrivée en ville, à Metropolis, la journaliste, le journaliste qu'il est, Clark Kent, effacé au Daily Planet, sa rencontre avec Lois Lane, qui ignore sa double personnalité, tout ça, c'est évacué. On entre immédiatement dans le vif du sujet avec un Superman qui vient d'éviter un conflit armé entre deux pays, ce qui contrarie les plans de Lex Luthor, un magnat de la tech aux ambitions mégalomaniaques. Alors, on gagne donc du temps, mais ça n'empêche pas d'avoir sous les yeux un scénario bordélique, prétexte à d'homériques scènes d'action avec force effets spéciaux, pas toujours réussis d'ailleurs. Alors si on aime ça, eh ben, on doit sans doute y trouver son compte. Moi, j'ai dû m'infliger 2 heures d'histoires invraisemblables où dès qu'on se trouve dans une impasse, on s'en sort par un artifice de scénario complètement invraisemblable. Heureusement, ça est là, mais pas assez à mon goût, il y a quand même un petit peu d'humour. Sinon, bah, c'est une succession de bastons apocalyptiques, de scènes de destruction massive, bref, la routine du blockbuster d'été américain, entrecoupée quand même de quelques scènes plus calmes, scènes romantiques entre Clark Kent et Lois Lane, scènes bavardes pour expliquer certains enjeux, et puis il y a en arrière-plan un contexte qui ancre le film dans l'actualité, par exemple il y a un conflit qui rappelle le conflit entre la Russie et l'Ukraine, l'importance des réseaux sociaux ou des fake news, tout ça c'est en arrière-plan. Pour moi, ça donne un film d'un ennui profond, mais je le répète, je ne suis absolument pas la cible d'un tel produit, donc mon opinion n'a pas beaucoup d'intérêt en la matière. Je qualifierais cela de spectacle décérébré, et je ne suis même pas convaincu par le nouveau Superman, ce David Covensuite. Mais bon, j'ai vu le film en VF, donc peut-être que ça n'est pas bon pour non plus lui. Bref, moi, j'y suis allé parce que c'était une avant-première, donc j'avais le temps d'y aller. Mais je savais que je n'allais pas être fan du film. Superman. Pâté quinconce, Colisée, méga CGR. Des feux dans la plaine. Là, par contre, des feux dans la plaine, eh bien, c'est uniquement au cinéaste pour ce film chinois d'un réalisateur qui s'appelle Ji Zhang. C'est son premier long métrage, réalisateur et scénariste. La durée 1h41, 2 séances par jour, évidemment en version originale. On est en 1997 en Chine, une série de meurtres en deuil, la ville de Fengtun. Les crimes s'arrêtent mystérieusement sans que les autorités aient pu élucider l'affaire. 8 ans plus tard, un jeune policier proche d'une des victimes décide de rouvrir l'enquête. Thomas Borès, en première, parle d'un polar vertigineux. Samuel Douer dans Télérama, d'un thriller captivant. La Croix, Ji Zhang réalise un film à l'image superbe, avec une excellente maîtrise de l'éclairage des scènes de nuit. Il brosse avec efficacité le portrait d'une Chine du Nord industrielle et sinistrée, où la crise scinde sa population en victimes et profiteurs. Ouais, bon. Yannick Voly dans Paris Match. Les meurtres ne sont qu'un prétexte, si bien que l'intrigue policière est un peu trop escamotée, au profit d'une ambiance noire de jet, où le feu de la colère couve, parfois crépite et finit par brûler les sentiments. Wow. Vincent Ostria, L'Humanité, ce film noir typique du nouveau cinéma chinois, contient ce qu'on aime a priori, les stigmates sociétaux, l'ambiance industrielle délabrée, les décors idoines. Hélas, le récit qui tourne autour de meurtres de chauffeurs de taxi et de la relation d'un jeune couple malchanceux reste trop embrouillé. Eh ben oui. Barbara Théâtre du Journal du Dimanche, certes le réalisateur Ji Zhang réussit grâce à une mise en scène sombre et naturaliste à créer sur grand écran une ambiance oppressante et à suggérer le désarroi d'une jeunesse chinoise broyée par le système, mais elle a du mal à s'intéresser à cette intrigue à la fois sociale et politique qui se déroule sur un temps long et à éprouver de l'empathie pour des héros aussi taciturnes que torturés. C'est au cinéaste qui vous est proposé ce film. Un polar chinois qui débute donc sur une enquête menée à propos de meurtres de chauffeurs de taxi dans une ville industrielle du nord de la Chine. Le film se divise en 2 époques, 1997, puis 8 ans plus tard, sans que je puisse vraiment vous dire pourquoi, parce que je reconnais que je n'ai pas compris grand-chose au film. J'ai mélangé allègrement très vite les personnages et les rapports entre eux. J'ai trouvé cela extrêmement confus, au point que j'ai cru que certains personnages étaient morts, pour les voir réapparaître plus tard. Bon, alors c'est probablement dû à mon manque évident de concentration, ça c'est possible, mais quoi qu'il en soit, c'est extrêmement lent, on a un mal fou à comprendre les motivations des personnages, et je reconnais avoir rapidement décroché, ce qui n'a pas vraiment aidé à la compréhension du film, ça c'est une évidence. Quant au contexte socio-économique d'une Chine du Nord en difficulté économique, qui semble être une des clés de lecture du film, eh bien, je ne maîtrise absolument pas ce contexte, et donc ça ne m'a pas fait raccrocher davantage à l'histoire. Bref, pour moi, encore une expérience d'ennui mortel et une énième interrogation sur les avis élogieux de la critique professionnelle.
Ah ben, j'ai enfoncé le clou.
Eh ouais.
Alors, pour rappel, oui, ce film se divise en 2 parties. La première en 1997, la deuxième en 2005. Ah, je vais encore vous citer quelques mots du mensuel VO, tiens. Je cite « Un thriller magnifiquement mis en scène ». Fin de citation. Ah ben, quand j'ai lu ça, j'ai halluciné. En effet, honnêtement et de mémoire, je n'ai jamais vu un film aussi brouillon et confus, à tel point que j'ai été vite largué et que finalement, je n'ai rien compris.
Ah ben les deux, alors c'est
bon. Ah oui, je suis d'accord. Normalement, à la fin de Polar, on a la clé de l'énigme. Mais là, je me demande toujours qui est le ou les assassins, la fille, le garçon, les deux, mystère total. En plus, j'ai trouvé que parfois certains personnages étaient mal interprétés. Bref, si vous allez le voir et si vous connaissez le coupable, vous êtes vraiment très perspicace.
Bon, voilà, on est d'accord tous les deux, on s'est bien ennuyé, quoi. Des Feux dans la Plaine, c'est au Cinéaste, 2 séances par jour. Marius et les Gardiens de la Cité Phocéenne, c'est au Colisée, au Méga CGR et au Pathé Quinconce. C'est un film pour les enfants. C'est réalisé par Tony Dattis, réalisateur et scénariste, qui avait en 2017 réalisé Le Manoir. Pierre va vous en dire plus sur ce film et ça va être assez bref.
Ouais, alors c'est, la durée, c'est 1h25, avec Soprano, Nordine Sally et Sofia Bellabès. Le synopsis: autoproclamé roi de Marseille, Marius est un guide touristique haut en couleur qui trimballe ses clients dans son bus panoramique. Le jour où son véhicule tombe en panne, mettant en péril son petit business, il fait la rencontre de 3 gamins du quartier qui prétendent être sur la piste d'un trésor. Marius se retrouve alors engagé dans une dangereuse aventure. Alors effectivement, la revue de presse va être très brève, il n'y en a qu'une, c'est celle du Parisien. Il est sympathique, ce film d'aventure familiale, sorte de Goonies sur la Canebière, petite bande attachante emmenée par l'attachant rappeur Soprano. Dommage qu'il soit plombé par une série de clichés sur les Marseillais, comme un passage obligé et un scénario passe-partout, ni vraiment réussi, ni complètement raté.
Bon, on n'a pas vu Marius. Les Gardiens de la Cité Phocéenne, c'est plutôt quand même un film pour les ados, jeunes ados. Petite pause musicale dans le film Over, on entend cette chanson Who Invited You? Oui, invité, qui vous invite?
Oui.
Et c'est le groupe The Donnas.
Oh, je ne connais pas.
Et on a le plaisir de voir Olga Kurylenko danser dessus cette chanson. Voilà, c'est sur Radio Alpa 107.3 FM.
Here, how you doing? Why don't you?
The Donnas Who Invited You, c'est dans le titre Over, et on en parle tout de suite de ce film réalisé par David Moreau, réalisateur, scénariste, producteur, né en 76. Il avait réalisé en 2006 Il, au pluriel, avec Olivia Bonamy et Michael Cohen. C'était pas mal d'ailleurs, co-réalisé avec Xavier Palud. 2008 The I, avec Jessica Alba, co-réalisé toujours avec Xavier Palud. 2013, 20 ans d'écart, là on change radicalement de registre, c'était une comédie avec Virginie Efira et Pierre Niney, c'était l'un des premiers rôles de Pierre Niney d'ailleurs. 2017, Seul, avec Sophia Le Saffre, et 2020, King, avec Gérard Larmon et Lou Lambrecht. Pierre, parle-nous de Over, qu'on peut voir uniquement au Méga CGR, que de la VF, et 3 séances par jour à partir de 18h simplement.
Durée 1h35, ce film est interdit au moins de 12 ans, avec Olga Kurylenko, Jean Schatz et Philippe Schurer. Le synopsis. Lorsque sa mère meurt brutalement, Alice, qui avait rompu tous les ponts depuis des années, se voit contrainte de rentrer chez elle pour régler les démarches funéraires. Elle renoue, malgré elle, avec une jeunesse traumatique quand elle revient dans cette maison où rien, pas même la chambre d'adolescente, ne semble avoir changé. Si ce n'est cet étrange système de vidéosurveillance très sophistiqué ou cette ombre qui rôde alentour. Le passé ne s'enfuit pas si facilement, surtout quand il est aussi monstrueux. La revue de presse, là encore, sera brève. Je commence par 20 minutes avec Caroline Vier. Ce suspense horrifique livre une belle réflexion sur les apparences et ce qu'on peut leur sacrifier de gré ou de force. Le Parisien avec Michel Valentin. L'aspect thriller s'enrichit ici d'une critique acerbe des dictats de la beauté, un clin d'œil assez savoureux, puisque la comédienne a elle-même été mannequin. Et enfin, le journal du dimanche, le résultat est très efficace, en dépit du jeu un peu démonstratif d'Olga Kurylenko.
Et je rajoute première, Pierre Lund, quasiment seule à l'écran, l'actrice, donc Olga Kurylenko, porte le film sur ses épaules. Elle fait naviguer son personnage entre vulnérabilité et détermination. Face au passé ressurgissant, elle passe de la méfiance à la terreur pure, de la colère sourde à la résilience, et déploie une palette stupéfiante. Sa gestuelle, son visage révèlent l'effroi grandissant qui s'empare d'Alice. Et Moreau, mise tout là-dessus, transforme un thriller atmosphérique en expérience vraiment viscérale. Eh bien, je l'ai vu et c'est pas si mal que ça, Over. C'est un petit thriller d'angoisse, beaucoup plus qu'un film d'horreur d'ailleurs. C'est un film au suspense très bien mené. Alors bon, bien sûr, il faut abandonner tout aspect rationnel à l'entrée de la salle, sinon ça ne tient pas la route et l'épilogue est bien trop tiré par les cheveux, mais c'est plutôt bien fichu, en tous les cas sur la forme, avec notamment cette idée de mise en scène, poursuivie tout au long du film jusqu'au plan final, de se débrouiller pour ne jamais filmer un visage, sauf celui du personnage principal. Alors les artifices pour ne pas filmer de visage sont assez nombreux, c'est intéressant à voir, et moi j'ai trouvé ça plutôt bien fichu. Voilà, donc c'était l'histoire d'Alice, c'est une belle femme, elle est dans la quarantaine, quadragénaire donc, et à l'annonce du décès de sa mère, avec laquelle elle avait rompu toute relation depuis longtemps, alors on comprendra pourquoi elle a rompu toute relation au cours du film, on va parler d'enfance traumatique, hein, si vous voulez comprendre, eh bien cette Alice se retrouve seule dans sa grande maison d'enfance, au milieu des bois, afin de régler donc les obsèques de sa mère décédée soudainement. Et là, manifestement, eh bien, il y a une présence mystérieuse qui la guette. Alors, elle le ressent à travers d'étranges bruits, notamment, et puis des ombres aussi, furtives. Donc, sur le thème de la maison hantée, eh bien, David Moreau réalise une très honnête série B, portée par la toujours aussi belle Olga Kurylenko. Un film avec une fausse piste, avec ses jumpscares, mais pas tant que ça d'ailleurs, avec un vrai style. Alors certes, le film ne marquera probablement pas les esprits, mais il est suffisamment bien fichu et beaucoup moins prétentieux que de récentes productions du même genre. Et moi, je le recommande aux fans de films angoissants parce que c'est bien fichu. Il y a des idées dans ce film-là. C'est dommage que ce soit un petit peu tiré par les cheveux. Ça s'appelle Over. Voilà, c'est au uniquement Méga CGR. Le Rire et le Couteau, on repart au cinéaste pour ce long métrage. Le Rire et le Couteau, c'est un film de Pedro Pino. Pedro Pino, c'est un réalisateur, scénariste et directeur de la photo portugais. Il avait réalisé en 2008 Bab Septa, qui me paraît être un documentaire inédit. Ensuite, en 2014, un film envoyé en VOD. Et puis 2017, par contre, ça je crois que c'était passé au cinéaste déjà. Ça s'appelait L'usine de rien. Attention, Le Rire et le Couteau, ça dure 3h31.
Aïe.
Sergio voyage dans une métropole d'Afrique de l'Ouest pour travailler comme ingénieur environnemental sur la construction d'une route entre le désert et la forêt. Il se lie à deux habitants de la ville, Diara et Guy, dans une relation intime mais déséquilibrée. Il apprend bientôt qu'un ingénieur italien affecté à la même mission que lui, quelques mois auparavant, a mystérieusement disparu. Ben, la presse a aimé. C'est Pierre Barbancet dans l'Humanité. Surtout ne pas se laisser décourager par la longueur du film, hein, 3h30. Le réalisateur portugais Pedro Pinho, qui signe son 5e long métrage, est un adepte du temps long. Celui qui permet dans un mouvement continu d'explorer les 1000 pistes qui jalonnent un parcours. Guillaume Loison dans l'Obs, la beauté envoûtante du film tient précisément à son art de l'esquisse et de la déambulation, à sa manière érectile, tiens, c'est ça, une manière érectile, de cartographier un monde inconnu via les rencontres et les heureux hasards ou pas. J'aimerais bien savoir ce que c'est qu'une manière érectile. Et j'ai mis une petite idée pour, dans d'autres domaines, mais là, bon, Le Monde, Clarisse Fabre. Le film déroule des histoires de vie contrariées, exposées à la violence, qui essaie toutefois de toucher le sublime par instant. On l'atteint justement lors d'une scène fusionnelle au bord de la mer où Sergio, Diarra, Guy et les autres partagent un moment apaisé à côté de vaches immobiles. Yannick Velu dans Paris Match, la richesse du film, comme son titre l'indique, Le Rire et le Couteau, c'est qu'il tient sur un fil d'équilibriste entre la comédie la plus triviale et quelque chose de beaucoup plus dur dans l'observation de rapports humains viciés par l'argent et le capitalisme. Ah. Louis Guichard, Télérama, les tribulations en Guinée-Bissau d'un jeune ingénieur portugais bien intentionné, le temps d'une mission environnementale, d'une durée hors norme, un film d'une ampleur rare, érotique et troublant. Autant vous dire que 3h30, c'était insupportable pour Pierre comme pour moi. Oh donc oui. Nous n'avons pas été voir Le Rire et le Couteau. Pas plus que nous sommes allés voir Valensole, 1965, film proposé uniquement au Colisée, avec généralement une seule séance par jour. C'est un film réalisé par Dominique Fiol. Dominique Fiol, c'est un réalisateur scénariste qui avait auparavant réalisé un documentaire, ou plutôt deux documentaires, un qui s'appelait OVNI, une affaire d'État. Et donc, on revient un petit peu sur ce thème des OVNI, puisqu'on est en 1965, à Valensole, en Provence. C'est l'été, à l'aube, Maurice Masse, un paysan, découvre dans son champ de lavande un mystérieux engin qui décolle à une vitesse sidérante en laissant des traces au sol. La nouvelle attire les foules et met Maurice sous les feux des projecteurs. Face à cette soudaine notoriété non désirée, il tente de protéger sa famille et de faire face. Sa vie, celle de sa famille et de ce petit village vont être bouleversées. C'est basé sur une histoire vraie. 20 minutes, Caroline Vier. Les somptueux décors provençaux ajoutent au charme d'un film chaleureux, offrant une petite pointe de mystère bienvenue. La douceur de la vie locale au cœur des années 60 est particulièrement bien rendue, tout comme les relations de villageois partagées entre envie de faire connaître Valensole et désir de protéger le discret Maurice. Le Figaro. Les fans de science-fiction peuvent d'ores et déjà passer leur chemin. Le cinéaste délaisse les récits fantastiques pour se concentrer sur un drame humain, intime, qui oscille entre mélancolie et onirisme. Lucie Chiquer dans Première. Ni les acteurs grimés à outrance, ni les beaux paysages provençaux ne parviennent à rehausser ce scénario fade d'une quelconque dramaturgie. Pour un interstellar franchouillard, on repassera. Et Johan Haddad dans Télérama, le jeu des acteurs très caricatural et les décors aux couleurs outrancièrement provençales ne rendent pas justice à cette histoire qui finit par nous laisser sur le carreau. Nous n'avons pas vu Valensole 1965, sachez que c'est uniquement au Colisée et en général, c'est pas en général, il y a une seule séance par jour. Valensole 1965. Les vacances, ça y est, et donc les enfants, il faut les occuper. Eh bien, c'est possible d'aller les occuper avec un dessin animé espagnol, Buffalo Kids. 1h23 pour ce film qui est proposé au Pathé Quinconce, au Méga CGR, peut-être même au Colisée, ça sera vérifié. 1h23 pour ce dessin animé espagnol. Au début du XXe siècle, deux orphelins irlandais, Marie et Tom, traversent les États-Unis à la recherche de leur oncle. Sur leur route, ils croiseront autant de méchants que de héros. Marc Aurel Garot dans La Tribune Dimanche, délicat et lumineux Buffalo Kids remporte haut la main son pari de divertissement familial ludique et intelligent, fruit d'un savoir-faire expert de l'animation et d'une histoire personnelle bouleversante. Le Figaro, l'animation est soignée, le scénario classique mais bien troussé, les enfants de 5 à 12 ans pourront largement y trouver leur bonheur pour l'été. Le Journal du Dimanche, merveilleuse surprise que ce film d'animation espagnol, coloré, énergique et très émouvant, qui comporte tous les ingrédients du western, la conquête de l'Ouest, une attaque de convoi, des bandits, des indiens, la cavalerie, des bisons, des coyotes, des vautours, une mine d'or et un méchant qui ressemble à Lee Van Cleef. Lee Van Cleef, c'était le méchant, la brute et le truand. Hein. Guillaume Tonicino dans Télérama, une production espagnole brillante qui rafraîchit les grands thèmes du Far West. Et enfin Thierry Chaise dans Première, un voyage riche en péripéties, certes, mais qui reste au fond assez attendu, assez convenu dans ses rebondissements, à l'image d'une animation ultra classique où rien ne dépasse. Dessin animé, 1h23, Pâté Quinconce, méga CGR pour ce film et peut-être même au Colisée, à vérifier. Voilà. Toute petite pause musicale, parce qu'il faut parler des films qui seront à l'affiche la semaine prochaine. Et donc, c'est un titre que l'on entend dans le film Over. Ça, c'est l'interprète, c'est Veruca, oui, Veruca Salt, pas Veronica, Veruca Salt, s'appelle Seether, S-2-E-T-H-E-R. C'est sur Radio Alpa, mais on ne va pas le passer en entier, on va juste en passer un petit morceau. Grave erreur de ma part, hein, j'étais parti sur le même que tout à l'heure. C'est sur Veruca Salt que l'on va vous parler, Pierre, d'un événement cet après-midi au cinéaste.
Oui, alors dans le cadre des films pour enfants pendant ces vacances, il y a cet après-midi un ciné-goûter, projection de Gruffalo à 15h30, c'est dès 3 ans d'ailleurs, et après vous aurez donc un goûter gratuit. Et puis une avant-première, toujours pour les enfants, mercredi prochain à 11h, avant-première de Chaude le Mouton, la ferme en folie, à partir de 4 ans.
Bon, alors, pour les autres, pour les grands, il y a des avant-premières dès ce soir, si vous écoutez en direct, pour Dangerous Animal, ou Animals, plutôt, puisque c'est en anglais. Alors, c'est à 20h et 22h15 au Méga CGR et 22h au Pâté. Le film sortira le 23 juillet, Dangerous Animals. C'est un film qui ne va pas trop plaire aux féministes, parce que les femmes se font bouffer par des requins, visiblement, dans le film. Sinon, dimanche, c'est les Schtroumpfs, le film. Les Schtroumpfs, le film, ça sera au Pâté, au Colisée, au Méga CGR. Alors, les horaires, il y en a le matin. Et en début d'après-midi, chaque fois, et on recommence avec les Schtroumpfs le lundi, pareil, séance le matin à 11h, 11h15, suivant les cinémas, et début d'après-midi, 13h45, 13h30. La semaine prochaine, nous aurons Eddington de Ari Aster, ça a l'air pas mal ça, ça a été présenté à Cannes d'ailleurs. Souviens-toi l'été dernier, je pense que c'est un remake d'un film qui s'appelait Souviens-toi l'été dernier, qui est ce qu'on appelle un slasher. Les Schtroumpfs le film, donc la trilogie d'Oslo, Désir, ça c'est pour Pierre, et certains l'aiment chauve. Un film avec Kev Adams, Michael Youn, c'est pas forcément de la grosse finesse dans la comédie, mais comme c'est pas long et que j'aurai le temps, j'irai certainement voir ce film-là. Cette semaine, Pierre est bien en peine, vous pourrez recommander quelque chose ?
Ouais, aucun. Désolé, c'était pas une bonne semaine pour moi.
Tant pis, hein. Donc moi, je peux recommander quand même Jurassic World, si vous aimez ce genre de film. I Love Peru, je suis très mitigé. Et puis si vous aimez les films de genre, Over, c'était pas si mal que ça. Voilà. On se retrouve pour la dernière de Clap la semaine prochaine sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Au revoir.